jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan.
Et on poursuit dans cette deuxième partie consacrée à Thomas Rebaud, fondateur, dirigeant, CEO et patron. On a vu qu'il avait les deux casquettes de Miro. Je retrouve mon acolyte Olivier Mathieu pour parcourir les diapositives de la vie de Thomas. On part dans l'enfance. Bienvenue sur ton canapé.
Allez, relaxez-vous. Et maintenant, on parle de vous ?
Les questions iront avec, du coup. L'idée, c'est de revenir sur ce qui a construit l'homme que tu es. La stature, la carrure, on est en radio, mais on te voit très, très baraqué. Mais on va commencer petit, où tu étais peut-être plus frêle. À quoi rêvais-tu, Thomas ? Tu étais sur les bancs de l'école.
Oh, la question, ça fait longtemps que je n'ai pas eu cette question. À quoi je rêvais quand j'étais sur les bancs de l'école, très honnêtement, j'ai eu deux rêves qui se sont succédés. Le premier, mais c'est pas un beau rêve, hein. Je vais pas te donner un beau rêve, malheureusement.
Non, mais il faut dire la vérité.
Mais ce sera la vérité. Je voulais être trader. Je n'ai pas la moindre idée de pourquoi je voulais être trader. Je pense que j'étais abreuvé depuis l'âge de 10 ans de films avec des gens en suitcase qui voyagent en avion.
Et avec le loup de Wall Street n'était pas encore arrivé.
Non, exactement. Mais c'était pas pour les raisons véreuses et vicieuses qu'on connaît. Simplement, je sais pas, il y avait un amour des chiffres, de l'ambiance, de la partie forte, etc., de ce monde. En fait, d'ailleurs, c'est souvent pas trader, c'était plutôt broker, mais je connaissais pas la différence entre les deux. Et donc, je sais pas pourquoi, mais je peux te dire qu'à l'âge de 18 ans, si tu m'enlèves, je vais faire ma vie. Je sais pas pourquoi. C'est complètement débile. Demain, je surtout pas envie de faire ça. Ça aurait été très loin de mes valeurs. Bref, c'était très loin de qui je suis, en fait. Mais à ce moment-là, c'est ce que je voulais faire. Voilà la vraie réponse. Et rapidement, j'ai voulu monter une boîte. Vers 22-23, j'ai commencé à me rendre compte que ce que je voulais faire, c'était monter une boîte.
Est-ce que y a toujours ce fameux sujet un peu tabou qui est de parler de l'argent ? Est-ce qu'on peut en parler dans le sens où est-ce que tu es capable de nous dire à quel point c'est quand même un truc important ou pas ? Parce qu'en fait, je trouve qu'on rencontre trop souvent des entrepreneurs qui disent non, je ne l'ai pas fait pour l'argent, etc. Mais après, comme tu abordes directement la question du trader, il y a quand même le monde de l'argent derrière. Et moi, j'ai un fils qui a 15 ans et qui me dit, moi, je vais être riche, habiter dans l'Upper East Side, etc. Et c'est hyper marrant parce qu'adolescent, je ne sais pas d'où ça vient. Enfin, je pense
il a peut-être vu quelques films.
Pareil, il y a des séries,
des films. Bien sûr, c'est des films.
Et en fait, je lui dis, voilà, pourquoi pas ? Enfin, moi, mon seul message que je dis en tant que père, c'est pas forcément facile de gagner de l'argent, sinon tout le monde le ferait. En revanche, je pense que est-ce que c'est un point qui a été important chez toi ? Je sais pas, peut-être par ta famille ou d'autres. Est-ce que c'est un ressort, quoi ?
L'argent. Bon, d'abord, moi, j'ai une famille de culture séfarade nord-africaine. Donc, ouais, probablement il y a probablement un peu de ça dans la culture familiale. D'ailleurs, c'est pas tant l'argent que l'entrepreneuriat, etc. C'est souvent corrélé, mais
c'est le business.
J'ai jamais su qu'on m'avait pas gagné. Ouais, c'est plutôt le business, exactement. C'est plutôt ça. Et ça, c'est quand même très fort, très fortement marqué chez moi. Dans une discussion, t'es à table, t'as 4 ans, tu comprends rien, mais tu vois, ton père et ta mère qui parlent de sujets et qui s'excitent, etc. Et donc, forcément, ça te marque.
Ils étaient entrepreneurs également?
Ma mère était dentiste. Et d'ailleurs, dentiste. Et mon père était chef d'entreprise. Ouais. Mais ça reste un métier indépendant sur lequel on m'a répété 1503 fois dans ma vie que il fallait être indépendant, quoi. De façon sneaky ou pas, je l'entendais sans le comprendre. Voilà. Donc forcément, ça te façonne un peu. C'est tout à fait logique. Après, moi, j'étais drivé par l'argent un bon bout de temps de ma vie, effectivement. Et c'était une des raisons pour lesquelles, probablement, même si je le formulais pas avec ces mots-là, à 18 ans, je voulais avoir une suitcase et un costard. Je ne porte plus jamais de ma vie, même un mariage, je galère à porter un costard maintenant.
Je précise que Thomas était en t-shirt devant
son micro. J'ai vraiment du mal. Mettre des chaussures, c'est très compliqué pour moi, ça fait mal aux pieds et tout. Je ne comprends pas trop ce qui m'attire à l'époque.
Et après, check, s'il n'a pas de tong.
Non, je suis en basket blanche, somme toute assez classique. Et en réalité, j'ai commencé à m'en désintéresser complètement quand j'en ai eu suffisamment pour que ça n'ait plus aucune valeur. Mais jusqu'à un certain temps, je sais, quand j'avais 25-26 ans, j'ai monté une première boîte qui a pas bien fonctionné, sur laquelle je t'avais rencontré Thomas pour faire un pitch, j'avais rencontré aussi Olivier là-dessus, qui était bien, mais il y avait un défaut, il y avait un flow dans le business model, que sûrement j'étais mauvais aussi, mais bon, la somme des deux fait que ça n'a pas très bien marché. Et donc j'ai enchaîné avec un truc assez classique, c'est que j'avais monté une boîte de conseil digital, bon, ça a bien fonctionné, mais je me souviens de mon comportement au tout début, donc j'ai fait quand même 3 ans en gagnant vraiment zéro banane, et donc quand j'ai commencé à gagner quelques milliers d'euros, je regardais mon compte assez fréquemment, j'étais content et ça me tunait, quoi. Je voulais le mois d'après avoir un peu comme un sales. De toute façon, j'ai un caractère de sales. Et donc, j'étais attiré. J'étais pas drivé par la mission de ma boîte. J'étais davantage attiré par le fait que, allez, on y va. Ce qui est pas du tout malsain, voire ce qui est même très très sain d'ailleurs, c'est ce qui fait que t'es un bon vendeur. C'est ce qui fait que tu te bats le matin et que tu réponds à un mail à minuit. Alors, tu pourrais répondre le lendemain à 8h, du matin. Donc, je pense ça très très sain. Donc, moi, j'ai aucun problème avec parler d'argent pour le coup. Vraiment pas du tout un problème ici. Maintenant, au bout d'un moment, j'ai eu de la chance de réussir, parce que c'est une somme de 1 000 enfin, la chance, on dit souvent qu'il fallait la chercher, mais il y a aussi quand même beaucoup de chance tout court, hein, des rencontres, hein, t'aurais pas faites, tu t'avais pris.
Enfin, en tout cas, il faut savoir les saisir, en tout cas, t'as réussi.
Ouais, exactement. Mais bon, il faut savoir
les
saisir.
Des fois, c'est les planètes qui sont alignées.
Yes, mais il y a quand même beaucoup de planètes qui sont bien alignées, en même temps, on va pas se mentir. Et du coup, à un moment donné, j'ai fait, trop d'argent, presque. Et en fait, du coup, maintenant, dans ma vie aujourd'hui, c'est vraiment plus du tout ce qui me drive. Cela étant dit, malgré tout, notamment dans la boîte aujourd'hui, je sais que c'est un des sujets, parce que je sais que si je veux aller dans la boîte d'après, etc., j'aimerais avoir plus de moyens financiers que lorsque j'ai monté celle-là, et donc ça continue de me driver. Mais c'est 1% de ma personnalité, alors qu'il y a une époque dans ma vie, ce que je trouve ça tout à fait normal, et donc je ne reproche aucunement à une personne qui a 25 ans, ou 50 d'ailleurs, de vouloir d'y penser beaucoup, tant que ça reste sain. Il y a d'autres personnes autour de moi, je ne sais pas, il y en a plein, qui en ont déjà beaucoup, qui sont malades du sujet. Et donc là, c'est un problème quand dans ta vie, ta valeur principale, ou même si tu vas dire que non et whatever, ta valeur principale, en fait, c'est l'argent. Et ça, c'est pas beau.
Ouais, mais je pense que c'est un vrai sujet psychanalytique.
Exactement.
Parfois, nous, on a toujours cette petite phase, mais c'est aussi l'objet de parler de l'homme que tu es, c'est d'arriver à comprendre les ressorts, parce que il y a des entrepreneurs qui ont une revanche à prendre sur la vie, par exemple. Donc c'est parfois par opposition aux parents ou par opposition à une situation sociale, etc. Donc ils veulent au contraire, et parfois même quand ils sont issus d'un milieu qui avait peut-être beaucoup d'argent, bah c'est aussi une opposition parce qu'on veut
le faire
soi-même, montrer qu'on va y arriver et pas dépendre de l'argent de la famille. Donc il y a plein de moments qui sont un peu des moments revanchards, peut-être positifs, hein, c'est constructif, mais c'est intéressant d'arriver à le comprendre, parce que nous, ce qu'on essaie de comprendre, en tout cas à travers tes réponses, c'est qu'est-ce qui fait qu'on peut déclencher plus de vocations entrepreneuriales. C'est aussi l'objectif de ce podcast, quoi, d'inspirer les gens comme les sportifs inspirent des gens pour ensuite les faire venir et s'inscrire dans les fédérations de sport, etc.
Il y a beaucoup d'ego, hein, dans tout ce qui est... Mais dans tous les métiers qui... T'as prononcé le mot champion tout à l'heure pour parler du Next 40. Je sais pas si on est des champions, parce qu'il n'y a pas de coupe à gagner. Et puis, il y a beaucoup de champions qui ne le seront plus, en tout cas, justement. On en revient à la bulle, etc. Mais,
C'est valable aussi en sport.
Et c'est valable aussi en sport. Mais quand t'as eu un titre, tu l'as eu. Hein, mais bon, effectivement. Mais mettons qu'on soit des champions... Il y a beaucoup d'ego. Je crois que quand t'es judoka, t'as pas envie de perdre, notamment parce que t'as presque un problème d'ego. Moi, à titre personnel, je sais que j'ai un truc qui me drive, c'est l'envie d'être premier. Je pourrais pas dire pourquoi. Je sais pas si c'est sain ou malsain. Je vois.
Dans ta vie perso également.
Ouais. Je sais que c'est un truc, mais je pense pas que ce soit malsain.
D'ailleurs, t'es arrivé avant Olivier, si ça peut
et
être.
Je savais que t'arrivais avec 3 minutes de retard et je suis arrivé une minute avant.
Bravo, j'ai encore perdu
la montagne.
Écoute, je vais partir le premier.
Non, mais c'est
attention,
un vrai
il sujet. Va se casser tout de suite.
C'est un vrai sujet. Allez, bonne soirée. Non, mais c'est un vrai sujet. Je me suis déjà demandé pourquoi. Parce que ça me fait aussi faire des choses bêtes parfois. Ça me fait chercher. Ça peut. L'ego, j'en ai pas beaucoup sur plein de sujets. Certains endroits, j'en ai beaucoup. Ça te fait faire des choses bêtes. Ça te fait ne pas être heureux, d'ailleurs, parfois. Parce que t'es jamais content de ce que t'as. Parce que t'as toujours l'impression qu'il y a toujours un mec au-dessus. Et du coup, t'es toute ta vie jusqu'à 75 ans en train de vouloir. Et ça te rend pas si heureux que ça au final. Alors qu'il y a des gens qui ont des caractères beaucoup plus calmes et qui sont beaucoup plus heureux dans leur vie. Donc, c'est des sujets qu'il faut se poser sur soi-même. En tout cas, je peux dire qu'aujourd'hui, à mon âge, le vrai sujet qui me drive.
Je crois.
33 ans, tout à fait. Le vrai sujet qui me drive au quotidien. C'est la passion de ce que je fais, c'est-à-dire que moi j'adore aller au bureau, hein, vraiment, j'adore ce que je fais, quoi, c'est quand même cool, c'est pas forcément si fréquent que ça, j'ai l'impression, j'adore ce que je fais, et après je veux arriver à un niveau qui, moi, me fera penser que j'ai été bon.
Alors justement, on aime bien les digressions avec Olivier, tu évoquais le coup d'après, tu l'as déjà en tête, ta boîte d'après.
Alors, j'ai 3-4 sujets, alors, j'ai 2 sujets, je n'ai pas pris la décision de ce que je voulais faire après, en admettant qu'il y a un après, accessoirement d'ailleurs, donc il faut d'abord qu'il y ait un avant qui soit bien passé, donc on verra. Là aussi, il faut encore qu'il y ait beaucoup de planètes qui s'alignent, hein. C'est un métier compliqué. J'ai 2 sujets, soit j'ai un sujet de lifestyle, et j'ai une sorte de passion avec mon frère jumeau depuis que j'ai 3 ans, et qui me donne envie d'en faire un truc, qui est un peu particulier. Soit je remonte une boîte, les deux sont plausibles, d'ailleurs je peux peut-être faire les deux en même temps. Et si je remonte une boîte, j'ai quelques industries qui me passionnent, ouais, effectivement, qui demandent un peu de cash justement.
On peut parler du secteur ?
Ouais, j'aimerais vraiment rentrer dans un mélange de tech et de ça sert à quelque chose pour l'humanité, en somme des deux. C'est bien pour ça d'ailleurs que personne que j'admire. Je crois qu'il y a une personne dont je suis fan, il y en a deux dont je suis fan. Il y a un boxeur, parce que c'est comme tu sais, mon sport depuis longtemps. Et il y a un entrepreneur que tout le monde connaît, donc je vais dire un mot absurde, mais c'est Elon Musk. Mais pour moi, j'ai toujours été fan de ce mec-là, puis ça fait 15 ans que je le suis, lui. Parce que je trouve qu'il fait des choses qui non seulement sont brillantes, et puis il a une exécution qui est complètement folle, avec des paris complètement fous. Mais qui en plus ont un vrai impact sur l'avenir de l'humanité, et donc j'aspirerais à faire des choses dans ce genre-là. Et donc j'ai le sujet de la biotech, il y a 2-3 sujets qui me passionnent vraiment, le sujet de l'eau, ça risque d'être un gros problème dans les 200 prochaines années, est un sujet qui me passionne, il y a 2-3 trucs comme ça, l'espace au demeurant est un sujet qui pour aucune raison me passionne depuis que j'ai 2 ans, et donc ouais, c'est des sujets qui me passionnent, et donc je sais que si je remonte une boîte, ce ne sera pas, à moins d'avoir échoué ma mission actuelle, sera pas, même si je saurais probablement le faire, un software, une marketplace, un machin, un software de RH numéro 32 qui probablement pourra faire de l'argent, mais qui n'apportera absolument rien à personne. Voilà, ce sera pas ça. Voilà. Et j'ai un autre, une mission perso, et on verra où ça va.
Tu l'as dit, t'as un jumeau?
Tout à fait.
Déjà, qu'est-ce qui nous dit que c'est toi?
Il parle beaucoup moins vite.
Est-ce que c'est un vrai jumeau ou pas?
Non, c'est un faux jumeau.
T'es arrivé premier?
Par rapport à lui, non, ça dépend de quoi. C'est un artiste.
Je parlais sur Terre.
Je suis arrivé premier, oui, tout à fait. Donc c'est lui aîné. C'est-à-dire que si on avait une famille de rois, il aurait été roi et pas moi.
D'accord.
Là est peut-être la revanche.
Voilà, c'est, tout ça vient de là. Alors,
c'est pour ça qu'on aime bien remonter jusqu'à l'enfance. Exactement. Avant l'enfance.
Ça vient de ça.
Et on aime bien comprendre aussi avec Olivier s'il y a des phrases, des manières de voir la vie que tu gardes de petit, qu'on t'a dit à l'école, qu'on t'a dit à table, dans ta famille, tous les soirs ou tous les ans ou que sais-je.
Regarde, pour te laisser réfléchir, j'ai une petite citation, j'étais en train de la chercher là, parce que tu parlais beaucoup de passion et tu disais, ben, du coup, moi j'adore ce que je fais et c'est pas si courant que ça. Donc je vous laisse deviner qui a écrit ça, parce que vous savez ma passion pour les citations, donc c'est le petit moment culture. Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez plus à travailler un seul jour de votre vie.
Ouais,
c'est
là,
Confucius, alors Confucius. Ça remonte, c'est la Chine, mais tu vois, ça
je la connais en chinois.
Parce que très souvent, t'as le bon bluff, désolé. Là, bien eu. Écoute, non, mais c'est parce que c'est vrai que ce truc-là qu'on sent qui t'anime à travers la passion du travail, c'est souvent, d'ailleurs, effectivement assez asiatique. Avec Rakuten, on l'a beaucoup ressenti quand on avait revendu PricewaterhouseCoopers à Rakuten. Les Asiatiques, ils ont ce côté qu'ils appellent passionately professional. C'est qu'à partir du moment où tu vis ton truc et t'es dedans, t'as plus cette connotation du travail un peu à la française, vous savez, le travail, pour continuer un petit peu le côté scientifique et savant de ma citation, c'est souvent associé c'est le tripalium, vous savez, donc c'est un supplice, en fait,
le
supplice du pal, ouais. Du labeur et donc finalement de la torture. Et c'est bizarre qu'il y ait cet imaginaire du travail, parce que comme tu le disais, on passe plus de temps au travail aujourd'hui à son bureau probablement qu'avec sa famille. Donc il faut absolument que ce soit un plaisir, sinon ça devient absurde.
Et à titre perso, je dis toujours je vais travailler, je suis au boulot ou je sais pas quoi, mais je n'ai pas du tout l'impression de travailler. Vraiment aucune impression de travailler.
Ouais, après tout le problème, c'est d'arriver à trouver des gens quand tu recrutes des équipes et que tu es chef d'entreprise qui participent à ça, parce que plus tu grossis, moi c'est ce que j'ai trouvé, je sais pas ce que tu ressens ça, quand tu grossis, bah t'as moins de monde qui sont exactement dans cette adhésion. Alors après, il faut quand même arriver à créer une culture commune.
Exactement. C'est exactement ça. Mais oui, moi je remercierai jamais assez je sais pas qui pour faire quelque chose qui au quotidien ne me donne pas l'impression que je travaille.
Ouais.
Ah, mais c'est bon. Moi, j'ai des copains qui ont été abreuvés ce qu'on appelle les rat race là dans les cabinets de conseil, etc. Qui gagnent probablement très bien leur vie dans des cabinets très prestigieux, etc. Mais qui s'emmerdent.
Ouais, ils sont en souffrance. Qui attendent au final.
Qui a impatience les vacances.
Ouais.
Et ça, je comprends pas comment ils font, pour être franc. Voilà.
Parce qu'il y a pas de sable au bureau.
Et j'ai donné un métier qui est facile. T'as tous les métiers pas faciles.
Bref, ouais, ouais, il y a pas la vraie pénibilité au conseil. Enfin, il y a la pénibilité.
Puis t'as l'argent qui va avec quand même, sûrement. Ouais. T'as 95% des autres métiers qui sont non seulement te donnent pas envie, qui sont du boulot, qui sont durs et qui font gagner pas d'argent. Donc je remercierai jamais, encore une fois, je sais pas qui, pour avoir la chance de faire ce que j'aime au quotidien.
On a une question. Alors toi, tu dis mystère, moi je dis surprise. Je te propose de l'écouter, Thomas. Celle-là, je pense que tu ne t'y attends pas.
Vous avez un message.
Et on va mieux découvrir les rituels de Thomas, normalement.
Coucou Toto. Alors tout le monde connaît tes talents d'entrepreneur et d'investisseur et ton amour pour la tech, mais peu de personnes connaissent ton amour et ta passion des bains. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur la place des bains dans ta vie et notamment dans ta routine du matin? Je t'embrasse.
Je précise que tu n'as pas la peau flétrie.
Non, pas encore, mais je finirai probablement par l'avoir. Ouais,
est-ce que tu peux nous dire qui a posé cette question?
C'est mon coloc qui s'appelle Hassan, avec un H aspiré, c'est très important. Et il tient. Avec qui je vis depuis 6-7 mois, du coup. Oui, tout à fait. On a toutes des routines. D'ailleurs, c'est des questions. Les gens ont l'impression que mettre des routines dans leur vie leur fera réussir leur. Donc, quand tu fais un petit panel, t'as toujours une question sur ta routine. J'en invente parfois pas mal pour me marrer parce que j'aime pas la question, je la trouve ridicule.
Les t-shirts bleus et les chaussures blanches.
Toujours les t-shirts le matin pour éviter de trop réfléchir. Bon, donc, je m'en invente quelques-unes.
Ça peut être des tocs, hein, comme Nadal.
Ça peut être un toc, exactement. Ça peut être un toc. Je cours tous les matins à 6h. Par contre, je prends un bain, effectivement. Mais c'est une routine parce que c'est ce que j'aime faire. Mais c'est un endroit qui me permet de réfléchir, de méditer, etc. Donc tous les matins, je prends un bain. C'est pas très écolo. Je sais pas si un jour cet audio me vaudra des problèmes, mais au demeurant, tous les matins, je reste une heure dans un bain et je réfléchis à plein de choses tous les matins. Mais absolument, absolument. D'ailleurs, quand je pars à l'étranger, il faut absolument que l'hôtel ou la maison dans laquelle je sois ait une baignoire, etc. C'est un sujet très important pour moi.
C'est-à-dire que tu te lèves tôt ou que tu vas plus tard au boulot?
Ça veut dire que je me lève tôt. Un peu moins depuis le confinement, parce que ça, le work from home fait décaler les horaires d'une bonne heure, donc ce qui n'est pas désagréable d'ailleurs.
Mais toi, dans ta façon de travailler, tu es plutôt du matin ou plutôt du soir? Parce que les entrepreneurs travaillent souvent beaucoup, et j'ai l'impression que toi, effectivement, t'as toujours beaucoup d'énergie, donc ça c'est top. Mais est-ce qu'il y a des horaires où tu sens que ton cerveau est plus...
J'ai des problèmes de on peut rentrer en détail de mon sommeil, mais j'ai des problèmes de sommeil. Donc en réalité, j'ai du mal à dormir sur des phases plus de 2 ou 3 heures.
Ah ouais.
Donc je vais me coucher à 1h du matin, je vais me réveiller à 3h30. Donc en général, je travaille à 3h30 jusqu'à 5h30, 6h, parce que je n'arrive pas à dormir. 3 heures de truc, ça fait que mon cerveau il commence à être fatigué d'avoir réfléchi pendant 2-3 heures. Je me rendors à 6 heures, je me réveille. En général, maintenant, je me réveille à 8h45, 8h30, donc c'est hyper tard. Sauf que je suis dans l'eau une minute plus tard et qu'à cet endroit-là, je travaille en réalité. Je réfléchis ou je travaille directement. Donc en fait, je suis.
En fait, Thomas a une baignoire, mais qui fait 25 mètres de long. Donc en fait.
Non, du tout, c'est une petite baignoire, mais je suis cosy, je suis bien. C'est une baignoire pour une seule personne. Mais c'est un rituel pour moi, ça je ne. Si je pars en vacances une semaine, un week-end, peu importe, j'ai pas ma baignoire, ça me pose vraiment problème, quoi. C'est pour ça qu'il, d'accord, il a réfléchi à ça, c'était une question marrante.
Moi, je rêverais aussi qu'on lance, après ta question, évidemment, Thomas, si t'en as une, mais l'inspiration, respiration, parce que déjà, le bain nous amène à ça et j'ai des questions sur ce sujet.
Eh ben, allez, go.
S'inspirer. Respirer.
Effectivement, on est bien, on est dans la détente. Enfin, tu vois, c'est 40 nuances de Nex, on est cool. Mais effectivement, les rituels, on peut s'en moquer. Effectivement, et on parlait du bain, ça peut être effectivement des moments un peu de méditation ou de réflexion, et ça, c'est sympa. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de comprendre pour nous, chez les entrepreneurs, ce qu'ils font à côté. Tu vois, on comprend aussi sa personnalité ou ta personnalité à travers le temps que tu passes à faire d'autres choses, qui peuvent être parfois intellectuelles ou parfois sportives. Et on a compris ta passion pour la boxe. On s'en est parlé un petit peu aussi off micro. Je trouve que ça serait intéressant d'en parler parce que Thomas fait de la boxe, mais vraiment fréquemment et beaucoup. C'est pas comme un petit hobby que tu ferais une fois par mois. Est-ce que tu peux nous dire d'où ça vient et combien t'en fais et à quelle fréquence?
Mais tu sais d'où ça vient? Je vais te faire la même réponse que pour le trader. Je rêvais de Jean-Claude Van Damme quand j'avais 12 ans et je sais pas pourquoi. Donc je pense vraiment que ça vient de là. Hein.
À l'exception du doublage.
Je rêvais, exactement, à l'exception du doublage. Mais effectivement, je rêvais de faire des sports de combat. Alors moi, j'ai une famille de beach volley. Donc je suis né avec un ballon de volley dans la main. Hein, et j'en fais encore tout le temps du beach volley.
Pas mal aussi en cardio, le beach volley.
Avec mon frère, tout à fait. Mais c'est un peu plus simple, hein, que c'est un cardio qui se maîtrise plus facilement. Donc avec mon frère, on joue tout le temps. Hein. Je suis le seul de la famille à avoir développé une passion inexplicable pour les sports de combat. Et donc effectivement, je fais de l'anglaise depuis un peu moins de 20 ans maintenant. Tout le jour de ma vie, c'est un sujet hyper important qui me passionne, voire qui me névrose.
Et donc
j'y pense vraiment tout le temps.
Et donc j'ai appris que tu avais un ring aussi au bureau.
Tout à fait. Et bah, parce que concrètement,
tu passes beaucoup de temps au bureau, c'est logique.
Non, mais en fait, je te rends compte avec le temps, si t'as la chance absurde de pouvoir mettre un ring dans ton bureau, donc une chance sur un milliard d'avoir le loisir de faire ça, si tu veux. Ça coûte pas grand chose en vrai. Hein.
Ouais.
Ça prend de l'espace, mais ça coûte pas monétairement. Mais tu le fais. Tu gagnes un temps fou, hein. C'est que quand tu dois partir de ton bureau, ce que beaucoup de gens peut-être qui écoutent font, faire 20 minutes de métro, enlever ta veste, ton machin, le foutre dans les casiers, t'entraîner, te doucher, etc. En fait, c'est un truc qui prend 2 heures plus. Alors que moi, en fait, je prends mon sac, je marche 12 mètres, j'ouvre ma salle, je me mets en short, terminé.
Est-ce que t'as d'autres collaborateurs qui ont...
ouais, voilà.
Non, collaborateurs, non. J'ai déjà fait parfois quelques fois avec des collaborateurs, mais parce que je crois qu'il y a personne qui boxe chez moi, donc j'ai fait des trucs avec des personnes qui boxent apparemment. Non, j'ai des gens qui viennent, des boxeurs, des profs. La boxe est un sport qu'il faut absolument pratiquer seul, probablement une fois sur deux. Sur un sac, etc. Techniquement, c'est très important. Non, il y a des gens qui viennent tout le temps, hein, plusieurs fois par semaine.
D'accord.
Voilà, donc c'est une vraie passion.
Donc vraiment tous les jours.
Ah, vraiment tous les jours, oui.
Et du coup, t'as envie d'en faire aussi de la compétition?
Mais écoute, je me suis entraîné, d'ailleurs, mais je me suis surtout entraîné dans le passé à des niveaux de compétition élevés, en réalité.
Ah oui?
J'ai une fragilité corporelle qu'il faut admettre, qui fait que je me blesse à peu près tout le temps. Et donc, je me suis blessé tout ce que je pouvais
c'est
me blesser dans ma
musculaire,
vie.
Des
musculaires? Musculaires, non, des côtes cassées, des genoux, des trucs, des machins. Et je pense simplement que je ne suis pas fait, même si j'ai peut-être l'esprit pour faire de la compète à haut niveau sur ce genre de sport. Donc finalement, non.
Ouais, faut faire attention. Ouais.
Je suis fragile, quoi.
Ouais.
Voilà.
Je reviens sur ce que ça t'apporte, c'est la santé physique, c'est la santé mentale. Et, exemple, tu passes une journée de merde, j'ai compris que tu t'entraînais tous les jours, mais typiquement, une mauvaise journée, une mauvaise nouvelle, un sujet compliqué à négocier dans la journée, la boxe, ça te...
Exactement. Mais alors, très honnêtement, même pour aller encore plus loin sur un truc que personne ne sait, j'avais des petits sujets de anger management quand j'étais jeune. Pour une raison qui n'existe plus, une éducation tout à fait.
Donc, anger, c'est la colère.
Ouais.
Donc, j'avais une crise de colère.
Ouais. Qui était un peu inexplicable, que bah, mon coloc m'a déjà vu, etc. Sur des choses qui s'expliquaient pas trop.
Là, tu parles de ton enfance ou
entre mes 13 et 20 ans.
D'accord.
Je m'énervais vraiment fortement, hein, pour des, que ce soit parce qu'une personne faisait un geste déplacé dans un environnement pour être de nuit, je sais pas quoi, ou parce que, je sais pas, parce que mes parents me disaient un truc. J'avais vraiment des petites crises, quoi.
T'avais besoin de canaliser ton énergie aussi.
Ouais, ça m'a. Et je sais que si je m'arrête 2-3 mois, ce qui m'est déjà arrivé pour cause de blessure, du coup, parce que c'est assez fréquent,
ça va se ressentir dans tes comportements quotidiens, ouais, dans tes réactions.
Ouais, donc j'en ai vraiment besoin. Je pourrais pas dire d'où vient ce défaut de caractère. Mais que je n'ai plus du tout, hein. Genre, je suis quelqu'un d'extrêmement calme.
Moi qui fais un petit peu de boxe, hein, beaucoup moins que Thomas, mais quand je vais à la salle de boxe, je trouve en fait qu'il y a, parfois les boxeurs disent le noblard pour parler alors c'est souvent des gens qui ont de toutes les origines sociales, qui se retrouvent, bon, souvent comme dans le sport, hein, c'est une des vertus du sport en général, mais c'est vrai en particulier dans la boxe. On le voit bien même dans le cinéma hollywoodien autour de la boxe, il y a ce côté un peu ascenseur social, etc. Mais je trouve que les boxeurs sont des gens qui sont impressionnants physiquement, mais hyper gentils et respectueux parce qu'ils savent aussi qu'ils peuvent se prendre une baigne à n'importe quel moment. Donc il y a une notion un peu, tu vois, de respect en fait dans la boxe qui est assez incroyable, alors qu'on peut en avoir cette caricature juste du bagarreur.
Ah ouais, alors pas du tout. Ouais, souvent les parents détestent voir leurs enfants faire ce genre de sport, c'est pas du tout ça. Les arts martiaux de manière générale et les sports de combat, c'est pas tout à fait pareil, développent énormément de qualités émotionnelles et toutes les valeurs type respect, etc. Il faut en faire un peu plus que 3 mois et un peu plus, parce que sinon ça... Je vais même dire l'inverse, je pense qu'au début, ça rend nerveux. Probablement, tout début, on a envie de...
Ouais, parce que c'est un peu humiliant, hein, quand même, honnêtement. Quand tu te prends un pain dans la gueule, c'est un peu humiliant, donc t'as envie de le redonner derrière.
Exactement.
Et alors qu'en fait, il faut se calmer, il faut contrôler le jeu, etc.
Et puis, non, bah, en fait, t'apprends à ne pas te nerver, parce qu'en fait, bon. Donc, je dirais peut-être la première, voire la deuxième année, ça peut rendre nerveux, et en réalité, sur le long terme, c'est pour ça que dans les quartiers difficiles, c'est un sport, enfin, qui est magique, hein, pour ceux qui arrivent vraiment, les professeurs qui font l'effort d'y aller sur 15 ans, et de prendre des populations entières dans les quartiers difficiles, etc. Ça, vraiment, ça développe les bonnes valeurs. Au tout début, peut-être pas, encore une fois, mais non, c'est un très très beau sport. Vraiment très très beau, qui est pas compris du tout, parce que quand on regarde à la télé, qu'on n'en fait pas, on voit juste du sang, on a l'impression que j'en tape dessus. Alors, pas du tout. Mais voilà, c'est vrai que moi, c'est une passion. Je sais pas si ça mène dans mon business, hein, pour être franc. Et au demeurant, quand t'es un peu nerveux, que t'as reçu un mail très très chiant, ça permet aussi d'aller mieux.
Et je profite du micro pour rendre un hommage à mon coach qui est Farid, qui est parfois dans les quartiers pas les plus faciles de Marseille, qui a été un ancien champion de France et qui fait faire de la boxe à plein de jeunes. Il a plus de 150 jeunes dans son club, dans le 15e arrondissement à Marseille. Et du coup, bah, je peux témoigner du fait que quand t'embarques les jeunes sur un ring et que tu leur fais faire du sport tous les jours, et bah, ils changent leur comportement.
Ça ferait une transition parfaite pour la claque. Il y a juste une question et on passera aux claques que tu as pu prendre, Thomas, dans ta vie d'entrepreneur ou personnel. Allez, je présume, je prends les paris que tu n'as pas encore d'enfant.
Non.
Si demain, tu en avais, qu'est-ce que tu aimerais leur léguer au-delà de tout l'argent que tu auras gagné?
Alors ça, c'est un vrai sujet, le legs d'argent. Hein. Ouais. Je ne suis pas certain qu'on évolue positivement avec de l'argent entre les mains quand on est jeune. Je ne sais pas s'il faut aller aussi loin que ceux qui dépouillent intégralement toute leur force. Je ne sais pas, mais alors, tu as deux sujets. Hein. Quand tu as de l'argent, c'est dans quel environnement ils évoluent. Donc même si tu ne donnes rien, tu as ton enfant qui est dans un 300 mètres carrés, avec 4 terrasses, 3 rooftop, je sais pas ce que ça influe sur ton cerveau sur les 15 prochaines années.
Sur l'envie de te battre, sur le...
Ouais, sur ton respect d'autrui, sur la compréhension de ce que c'est. Donc c'est un vrai sujet, c'est ce que tu t'imposes de vivre dans un environnement qui est moins bien, même si c'est moyen de faire mieux pour tes enfants. C'est un vrai truc sur lequel j'ai pas encore tranché, pour être franc.
Et après, tu seras en coloc avec HM.
Exactement. Exactement. Ou est-ce que, et sur le leg d'argent, pareil, je suis pas certain, ou alors faut le faire à l'âge de 45 ans quand le mec a fait sa vie. De toute façon, au demeurant, on peut espérer ne pas être mort avant qu'il est mort. Mais c'est un sujet quand même. Et du coup, la question était.
Plus philosophique.
Oui. Redis-moi la question.
Sur l'héritage que t'as envie de léguer à la postérité.
Pas forcément financière, mais voilà.
La partie morale. C'est des questions auxquelles je n'ai pas encore bien réfléchi. Elles sont dures. Parce que je ne pense pas avoir d'enfant avant bon bout de temps. Bon, il me faut. Malheureusement, ma génétique est mal faite, donc je ne peux pas faire ça tout seul. Et puis, de toute façon, j'en ai pas envie. Pour pas mal de raisons.
Tu as le droit de dire je ne veux pas d'enfant. Enfin, je ne voudrais pas imposer le fait.
Oh là, si. Voilà. Non, je veux des enfants.
Il n'y a pas de normes.
Je vais dire comment
on
je vois
les choses.
Tu sais que c'est souvent quand tu as 33 ans, etc., que tu as une pression et je vais répondre à la question
là,
après.
Du coup, je reproduis les questions de tes parents.
C'est le fameux fantastique.
Je vais aller dire, tu as souvent des questions. Les gens te mettent la pression comme
alors,
si ils avaient été mieux.
Alors, une question de ta maman.
Ouais.
Vous avez un message.
Non.
Non, je déconne.
Non, mais c'est vrai qu'on a l'impression, alors, je réponds souvent, moi, que, et je vais, comme ça, je le dis, puis je réponds à ta question, que les personnes qui ont des enfants depuis l'âge de 25 ans, mettons, hein, au demeurant, a priori, tout ce qu'ils vivent, ou la plupart de ce qu'ils vivent, je le vivrai, parce que j'aurai aussi mon enfant qu'un pas, hein. Alors qu'à l'inverse, tout ce que moi, je vis en tant que célibataire, ou en tout cas sans enfant, eux ne vivront plus. Type partir à l'étranger, faire le tour du monde, faire la fête, etc. Donc en fait, je suis pas très pressé. J'ai l'impression que ce que je vis aujourd'hui, je ne le vivrai pas plus tard avec les enfants, ou en tout cas différemment. Donc j'attends un peu. Le leg, je suis très, très axé valeur. J'ai parlé d'ego tout à l'heure. Je pense que l'ego, c'est le pire... le pire défaut de l'humanité, on en a tous un peu.
Mettre l'ego de côté.
Et donc c'est, j'ai pas encore réfléchi précisément. Ouais, mettre l'ego de côté, mais ça va loin l'ego, c'est sûr. Ça crée vraiment tous les problèmes. Ça crée la jalousie, ça crée. Bref, j'ai pas réfléchi à cette question. J'ai pas envie de te dire n'importe quoi, mais at some point, je mettrai une petite liste de valeurs que j'aimerais transmettre. Le respect de la femme, par exemple, si c'est un garçon, et ce genre de choses. Et ce sera probablement un de mes focus principaux. Très compliqué de savoir comment tu le fais. C'est pas en répétant 48 fois le même mot clé dans la tête d'un enfant que tu transmets une valeur.
On va l'écrire 100 fois au tableau.
Mais en tout cas, il y a quelques erreurs dans mon éducation, en tout cas, je répéterai pas, sans les citer.
Wow. Ça fait moins mal que tes combats de boxe, néanmoins, qui sait. On s'interroge sur les grandes claques de Thomas Rebaud, CEO de Miro, à la fois personnel ou professionnel. Qu'est-ce que tu retiens?
Alors, c'est pas forcément les claques physiques du boxeur, mais ça peut être voilà les revers qu'on peut connaître dans la vie, parfois perso, parfois pro et autres. Et on trouve que c'est intéressant d'avoir le discours de vérité quand on a connu des difficultés. On en a parlé, hein. Il y a eu la crise évidemment de la Covid dans laquelle on est encore toujours. Et ça peut être celle-ci, mais est-ce qu'il y a eu d'autres moments où tu t'es dit, je me rappelle que tu as dit tout à l'heure aussi, voilà, ta première entreprise, tu te trouvais pas encore assez bon. Est-ce qu'il y a des moments qui te marquent et dont tu te dis, bon, ok, bon, ben, d'un autre côté, je me suis aussi appuyé dessus et j'ai rebondi.
Bon, déjà, je suis pas un boxeur, hein, parce que pour être boxeur, faut être professionnel et être payé pour. Mais en tout cas, je pratique la boxe et j'adore ça. J'ai pas eu énormément. Pour être franc, pour l'instant, je ne sais pas que ça va venir, je suis impatient de les connaître. Énormément de claques professionnellement. J'en ai eu personnellement un petit paquet, malheureusement. Mais professionnellement, pas tant que ça. Mais surtout, je ne les vis jamais vraiment comme tel. Quand tu te plantes sur un sujet, la nature de la personne qui se plante fait que, injustement, elle réagit d'une façon A ou d'une façon B.
Soit c'est une claque, soit c'est un... Ouais, c'est un apprentissage.
Non, mais même ce qui m'a servi à rien, je l'ai jamais vécu. J'ai eu la chance. Mon cerveau ne réagit pas avec drame. Donc même quand la première boîte, j'ai perdu. J'ai vraiment pas un euro. Hein. J'ai pris des emprunts dans tous les sens. J'ai vraiment parti. Bon, je me suis jamais réveillé un matin déprimé. Si tu veux. Mon cerveau qui a plein de défauts n'a pas ce défaut-là. Et donc j'ai jamais dramatisé les événements difficiles qui sont passés. Donc en réalité, si je reprends les 5 dernières années, je me suis planté. Tous les 3 jours quasiment, mais parfois fortement. Probablement tous les 6 mois sur un sujet. Sur Miro, j'ai ouvert la Chine, et dépensé un petit paquet de pognon sur la Chine, je suis reparti la queue entre les deux jambes, si tu veux. J'ai monté une boîte qui n'a pas fonctionné, j'ai investi dans des boîtes qui sont radicalement plantées, etc. J'ai fait plein de trucs comme ça, mais j'ai une capacité à nexter, tu vois, vraiment à ne même plus y penser du tout, qui est vraiment très forte. Et d'ailleurs, je pense que c'est une vraie qualité. Alors que d'autres personnes vont faire un petit truc qui n'est pas si grave que ça. Peut-être une rupture amoureuse, comme ça peut être un truc professionnel, comme ça peut être, peu importe.
Et
pendant un an et demi, c'est très très dur. Et tu peux pas leur en vouloir, ils font pas exprès, c'est comme ça que leur cerveau fonctionne. Tu peux juste, ça sert à rien de dire réveille-toi, c'est un peu chiant comme, tu vois, ils font pas exprès en fait. C'est parfois des trucs t'entends, t'es là, les mecs, ils font bon, voilà. Donc, c'est ça. Mais juste, tu peux juste le constater, avec tristesse, mais mettre très longtemps sans dépatouiller, ça laisse une petite trace derrière, ça peut avoir de la perte de confiance derrière. Gros problème de confiance en soi, c'est un truc qui quand même est un sujet majeur en société aujourd'hui, de la société actuelle, aussi bien chez les femmes que chez les hommes, et donc ça laisse des traces. Un mec qui a eu 3 échecs, qui n'a absolument rien à voir d'ailleurs, fait que je sais pas, il a une espèce de truc dans sa tête qui fait qu'il a pas confiance et bon, et j'ai pas ça. Donc en réalité, j'ai pris pas mal de claques, c'est-à-dire que je pourrais les citer si tu veux, mais ce serait mensonger dans le sens où je les ai pas vécu comme des claques. Voilà, réponse franche.
Carte blanche pour 40 nuances de Next.
Alors c'est le moment de ta carte blanche, ce qui veut dire que en fait finalement c'est comme une sorte de mini conférence que tu peux faire. Le micro est à toi sur un sujet peut-être sur lequel tu aimerais mettre un coup de projecteur, qu'il soit sociétal, culturel, lié ou pas à Miro comme tu veux, et pendant lequel nous on ne t'interrompt pas, donc on ne te pose pas de questions.
Ouais, alors malheureusement, j'ai appris l'existence de cette carte blanche il y a 20 minutes. Enfin, il y a
donc
une heure.
On sait que tu ne lis pas tes mails.
Exactement. J'ai vu des mails. Mais en fait, normalement, j'ai une personne qui me met en lumière les choses sur lesquelles je dois me concentrer, notamment si j'ai un événement qui arrive et faut que je prépare.
Il y avait beaucoup de choses à préparer. Hein.
Donc, pour le coup, je n'ai pas vu passer celui-là. Donc, je suis arrivé et je l'ai appris vraiment au moment de commencer l'interview, parce qu'il laisse peu de temps à réfléchir. Et puis, en réalité, il y a souvent plein de sujets qui s'en mêlent sur lesquels qui te passionnent au quotidien. Tu vois. D'ailleurs, j'ai parlé de féminisme. Bon, bref, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Mais du coup, pendant que je parlais, j'ai réfléchi à, by the way, dans pas longtemps, il va falloir que je parle d'un sujet tout seul. Et j'ai pensé au NFT, parce que c'est un sujet, donc c'est malheureusement très pro, ouais, pas perso. Alors, j'ai plein de sujets perso aussi, mais. Et c'est un sujet qui me passionne en ce moment. Ça me passionne parce que j'ai l'impression que. Alors, je suis pas un grand aficionado des crypto-monnaies. C'est donc NFT, les non-fungible tokens. Je vais expliquer ce que c'est d'ailleurs. Je suis pas un grand fan des cryptos. Je suis pas rentré là-dedans. D'ailleurs, j'ai jamais mis un euro parce que je trouve qu'il y a trop de gambling là-dedans et que. Bon.
Ça t'aurait pu. Faire jouer le trader qui était en toi.
Peut-être. Mais non, j'aime pas investir dans les trucs sur lesquels le sous-jacent me l'impression qu'il y a trop de trucs que je comprends pas et qui me paraissent presque un peu bizarres. Mais je parle pas de la blockchain, je parle des cryptos. Et bref, du coup, je suis pas rentré dedans. Et l'NFT, ça arrive depuis quelques temps, ça m'amuse un peu. D'abord parce que c'est un monde infini et que je trouve du coup qu'il y a une nouvelle vague potentiellement à rentrer dedans, puisque je suis pas rentré dans les cryptos d'ailleurs au demain ni dans la blockchain. Et ensuite, ce qui me fait marrer, c'est un NFT, c'est que t'as l'impression que t'as deux mondes qui se parlent et qui se comprennent pas du tout. Ça me fait marrer. T'as d'un côté.
Moi, je connais pas très bien.
Du coup, pardon, j'allais expliquer. Et donc, l'NFT, c'est le. Donc, non-fungible tokens. C'est les œuvres digitales qui se vendent, s'achètent via des crypto-monnaies. Et donc, dans le mot token, c'est sur lequel tu peux retracer via la blockchain l'unicité. Donc, concrètement, c'est au lieu de vendre un tableau, tu vends une œuvre digitale, tu peux prouver qu'il n'y en a qu'une, oui. Plusieurs, en tout cas, tu peux prouver d'où ça vient. Et donc, ça vient des œuvres d'art. Et donc, ce sont la vente d'œuvres d'art digitales. Numérique, exactement. Donc, ça s'appelle des NFT et c'est en train d'exploser littéralement. Au demeurant, c'est relativement normal. C'est vrai que ça fait 10, 15, 20 ans maintenant que des gens font des vrais arts graphiques, notamment, si on pense qu'il y a des choses proches de la peinture, et qui ne sont pas valorisées ou pas vendables. Donc, en fait, c'est plutôt une bonne chose. Maintenant, comme souvent ce genre de choses, il y a peut-être un petit comportement bullesque sur quelques valos. Un exemple très simple, la NBA a sorti des vidéos de 15 secondes de LeBron James qui met un panier incroyable et ils vendent cette vidéo de 15 secondes 20 000 balles. Voilà, et donc tu l'achètes, c'est disponible sur YouTube autant que tu veux, comme tu peux avoir des répliques à Picasso si tu veux, mais t'es seul à l'avoir le truc
l'officiel, l'original.
Voilà. Après t'en fais ce que tu veux, souvent t'en fais rien, mais tu peux le mettre sur un mur au devant. Bon, voilà, donc c'est ça un NFT, et ça me fait marrer parce que j'ai l'impression qu'il y a d'un côté des fans de crypto qui ont pas la moindre compréhension de comment valoriser une œuvre d'art, ouais. Et qui d'ailleurs en général s'en foutent, et de l'autre côté des artistes qui ont pas la moindre compréhension de pourquoi une œuvre digitale vaudrait quoi que ce soit. Et t'as deux personnes qui se parlent comme ça, qui ont rien à voir, et t'as un truc au milieu qui a été une espèce de moyen technique qui a été mis en place pour que les gens se parlent, et c'est assez rigolo, notamment tu suis l'interaction entre ces deux clans. Ils ne se comprennent pas. Voilà. Au demeurant, chez Christie's, c'est une œuvre d'art digitale, donc c'est des designs qui ont été vendus à 68 millions de dollars il n'y a pas longtemps. Hein. Donc il y a vraiment des gros, gros montants, ce sont des vraies œuvres.
Oui, mais il y a eu aussi l'histoire du premier tweet, par exemple.
Le premier tweet qui a été vendu plusieurs millions de dollars.
Donc ça devient une œuvre d'art, c'est pas une œuvre d'art, mais l'idée de le transformer en NFT, ça le transforme en une
ça
sorte
le transforme
d'œuvre
en
symbolique.
D'art.
Ouais.
Mais là, parfois, n'est pas beau.
De
hein.
Cette seconde partie de podcast avec Thomas, une NFT.
Mais tu peux, je sais pas la valeur du truc. Pour l'instant, stock là. Peut-être que dans 20 ans, ça vaudra, je ne sais pas. Pour l'instant, je doute que le prix d'achat soit très élevé.
Je pense que tout va se jouer sur ton choix, Sista. Donc, on est sur un palmarès encore très masculin, même si on a eu le plaisir, lors du dernier épisode, de retrouver Alix de Sagazan, une nouvelle entrante. Mais encore un palmarès très masculin. Et c'est pour ça qu'avec Olivier et Solène, notre associé, on voulait proposer aux entrepreneurs de féminiser ce palmarès en projetant la lumière, et ça tombe bien, vu ton métier, sur une femme entrepreneur qu'ils admirent.
Carole. Mais tu connais, je crois, en fait. Hein. Tout le monde la connaît, puisqu'elle fait un peu de bruit dans le secteur tech. Carole, c'est la fondatrice de June. C'est une très bonne amie à moi. Bon, pareil, je n'avais pas les questions, donc c'est spontanément la première réponse qui me sort. Il n'y a pas énormément d'entrepreneuses, en réalité. Donc, en fait, le choix est relativement limité, pour être franc. Ce qui est dommageable, j'ai l'impression que ça change un petit peu. Hein. Je regardais les panels il y a 5 ans et aujourd'hui, ça évolue.
Ça bouge.
Ça va prendre 25 ans, comme d'habitude, mais en vrai, ça évolue. Après, Carole, elle a un petit côté... elle arrive à mélanger en même temps une boîte qui, au demeurant, fait de l'EBIT, Ce qui est très très rare, donc on apprécie, avec un rôle de PR, c'est-à-dire qu'elle est quand même très présente, elle doit l'être, etc. Ouais, voilà. Ouais. Avec une grossesse qui arrive à échéance.
À terme.
À terme, merci, je cherchais le terme. Dans très peu de temps, il me semble que c'est en mai, avec un mari, tout ça en même temps. Et une boîte qui cartonne, hein. Donc elle vend des couches bébés, hein. Ça s'appelle June.fr.
Sans produits nocifs pour la santé des enfants.
Tout à fait, des enfants, tout à fait. Mais tout en ayant des amis, tout en t'appelant tous les jours. Hein. Bah, elle mélange beaucoup de choses, une grande énergie.
Elle est aussi administratrice, donc on est en France de France Vital, donc on est au bord ensemble. Donc on apprécie son énergie parce qu'elle a toujours effectivement un taux de participation très très fort au bord.
Et du coup, elle gère beaucoup beaucoup de sujets. Sans se fatiguer, sur le long terme, parce que c'est facile de se chauffer pendant 3 mois, faut les chauffer pendant 10 ans, c'est plus compliqué. Et je trouve ça admirable. Voilà.
Si tu devais lui poser une question qu'on lui posera en ton nom, tu...
Comment s'appelle ton enfant?
Ah, c'est bon, ça, comme question.
J'essaie d'avoir la réponse et je ne l'ai pas.
Si on l'a dans le podcast avant la naissance, on aura une énorme exclusivité. Ça pourra être une NFT du
grave.
Coup.
Grave.
Ça peut.
Une question plus pro, t'aimerais savoir?
Professionnellement?
Ouais.
Sur Carole, je connais vraiment toute sa vie. Je vais devoir décliner la question. Vraiment.
Bon, on peut la saluer de ta part.
Et il faut.
Et on te salue également.
Ben,
Thomas.
Merci pour le moment partagé.
Merci beaucoup, Thomas. On a passé un moment assez énergétique. Bravo pour ta puissance physique, mais également l'inspiration que tu as pu dégager sur les.
Merci.
Sur les
vite, on a pu finir en temps et en heure.
Si tu mets en 0.9 niveau vitesse, tu verras que ça,
oui, mais
ça
après,
calme.
Olivier et moi, on va parler tout <C'est> doucement. Merci.
Merci.
Merci à vous.
40 nuances de Next.
The Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan.